en hommage à Harry Salem, alias Henri Alleg, décédé récemment le 17 juillet 2013, nous vous proposons la diffusion intégrale en deux émissions de son livre témoignage, La Question. Harry Salem est né à Londres le 20 juillet 1921 dans une famille de juifs russes et polonais qui se sont installés en France. En 1939, il part en Algérie où il découvre l'injustice et la violence du colonialisme. Entré au journal Alger Républicain en 1950, il en sera le directeur en 1951. En 1955, le journal est interdit. Henri Alleg entre en clandestinité et envoie ses articles à l'Humanité. Il est arrêté le 12 juin 1957. Torturé intensément pendant un mois, il survivra et du fait de la médiatisation de sa disparition, il ne sera pas exécuté. Transféré au camp de Lodi le 12 juillet 1957, il arrivera à transmettre le récit de son martyr à son avocat Léo Matarazzo, qui le communique au journal L'Humanité, qui le publie le 30 juillet 1957, journal aussitôt saisi. Le 12 février 1958, Jérôme Lindon publie son témoignage sous le titre « La question ». 60 000 exemplaires vendus, mais le 12 mars 1958, un mois après la publication, l'État ordonne la saisie et c'est clandestinement que l'ouvrage sera diffusé. Par la suite, Henri Alleg sera transféré et emprisonné en métropole et il réussit à s'évader en 1961. En 1962, il relance Alger Républicain. Boumedienne, arrivé au pouvoir en 1965, l'oblige à quitter l'Algérie. Henri Alleg continue alors sa lutte politique et journalistique pendant toute sa carrière. Et toute sa vie, Henri Alleg restera fidèle à ses convictions et luttera en particulier contre le colonialisme. En 2000, il militait toujours en signant l'appel des 12 pour la reconnaissance par l'État français de la torture pendant cette guerre. Voici, en deux émissions, la diction de son récit, La Question.
Il y avait tant de muguets, il en neigeait ce printemps-là. On ne faisait qu'une seule plante, que l'on s'aimait dans ce bois-là. Mais il y avait tant de suspects, des tas de gars que l'on traquait, qu'on torturait. Il y avait tant de muguets, mais pas le temps cette année-là de le cueillir. Il y avait tant de suspects qu'il a fallu nous séparer, nous deux aussi. La longue liste s'allongeait, des tas de gars dans ce bois-là se réfugiaient. Alors c'est toute la forêt, ce printemps-là qui a flambé, pour qui, pourquoi? Des petits soldats que l'on dressait, qu'on habillait, que l'on topait pour ce travail-là. Des petits soldats que l'on gonflait, de toutes parts il en pleuvait, il en neigeait. Alors il y eut ce printemps-là des tas de gars qui sont restés sur le muguet. Alors ce fut Hiroshima, là-dessus tout le monde a dansé, nous deux aussi. Quand sur la terre il n'y aura plus un muguet, plus un seul gars, pour qui, pourquoi?
Dans cette immense prison surpeuplée, dont chaque cellule abrite une souffrance, parler de soi est comme une indécence. Au rez-de-chaussée, c'est la division des condamnés à mort. Ils sont là 80. Les chevilles enchaînées qui attendent leur grâce ou leur fin. C'est à leur rythme que nous vivons tous. Pas un détenu qui ne se retourne le soir sur sa paillasse à l'idée que l'aube peut être sinistre, qui ne s'endort sans souhaiter de toute sa force qu'il ne se passe rien. Mais c'est pourtant de leur quartier que montent chaque jour les chants interdits, les chants magnifiques qui jaillissent toujours du cœur des peuples en lutte pour leur liberté. Les tortures. Depuis longtemps, le mot nous est à tous devenu familier. Rares sont ici ceux qui y ont échappé. Aux entrants à qui l'on peut adresser la parole, les questions que l'on pose sont, dans l'ordre, arrêtés depuis longtemps, torturés, para ou policiers. Mon affaire est exceptionnelle par le retentissement qu'elle a eu. Elle n'est en rien unique. Ce que j'ai dit dans ma plainte, ce que je dirai ici, illustre d'un seul exemple ce qui est la pratique courante dans cette guerre atroce et sanglante. Il y a maintenant plus de 3 mois que j'ai été arrêté. J'ai côtoyé, durant ce temps tant de douleur et tant d'humiliation, que je n'oserais plus parler encore de ces journées et de ces nuits de supplice, si je ne savais que cela peut être utile, que faire connaître la vérité, c'est aussi une manière d'aider au cessez-le-feu et à la paix. Des nuits entières, durant 1 mois, j'ai entendu hurler des hommes que l'on torturait, et leurs cris résonnent pour toujours dans ma mémoire. J'ai vu des prisonniers jetés à coups de matraque d'un étage à l'autre et qui, hébétés par la torture et les coups, ne savaient plus que murmurer en arabe les premières paroles d'une ancienne prière. Mais depuis, j'ai encore connu d'autres choses. J'ai appris la disparition de mon ami Maurice Audin, arrêté 24 heures avant moi, torturé par la même équipe qui ensuite me prit en main. Disparu comme le cheikh Tebessi, président de l'association des oulamas, le docteur Chérif Sahar et tant d'autres. À Lodi, j'ai rencontré mon ami de Milly, employé à l'hôpital psychiatrique de Blida, torturé par les paras lui aussi, mais suivant une nouvelle technique. Il fut attaché nu sur une chaise métallique où passait le courant électrique. Il porte encore des traces profondes de brûlures aux deux jambes. Dans les couloirs de la prison, j'ai reconnu dans un entrant Mohamed Sefta, de la Mahakma d'Alger, la justice musulmane. 43 jours chez les paras. Excusez-moi, j'ai encore du mal à parler, ils m'ont brûlé la langue. Et il me montra sa langue tailladée. J'en ai vu d'autres, un jeune commerçant de la Casbah, Boualem Bamed, dans la voiture cellulaire qui nous conduisait au tribunal militaire, me fit voir de longues cicatrices qu'il avait au mollet. Les paras avec un couteau. J'avais hébergé un FLN. De l'autre côté du mur, dans l'aile réservée aux femmes, il y a des jeunes filles dont nul n'a parlé. Jamila Bouired, Eliette Lou, Nassima Ablal, Melika Ken, Lucie Koska, Colette Grégoire et d'autres encore. Déshabillées, frappées, insultées par des tortionnaires sadiques, elles ont subi elles aussi l'eau et l'électricité. Chacun ici connaît le martyre d'Annick Castel, violée par un parachutiste et qui, croyant être enceinte, ne songeait plus qu'à mourir. Tout cela, je le sais, je l'ai vu, je l'ai entendu. Mais qui dira tout le reste? Cette eau disparue, et à ceux qui, sûrs de leur cause, attendent sans frayeur la mort, à tous ceux qui ont connu les bourreaux et ne les ont pas craints, à tous ceux qui, face à la haine et la torture, répondent par la certitude de la paix prochaine et de l'amitié entre nos deux peuples, qu'il faut que l'on pense en lisant mon récit, car il pourrait être celui de chacun d'eux.
ما أظل نحطم عنك القيود فبيك برغم العدا سنسد ونعصف بالظلم والظالم سلاما سلاما جبال البلاد فأنت القلاع لنا والعمد وفيك عقدنا لواء الجهاد ومنك زحفنا على الغاصبين قهرنا الأعادي في كل ود
فلن تجديهم طائرات عوت ولا طنك ينجيهم في البوت فباءوا بأشلائهم خاسئين سلاما سلاما جبال البلد فأنت القلاع لنا والهيمن وفيك عقدنا لواء الجهد ومنك زحفنا على الغاصبين وقائعنا قد هوت للورى بأن صمدناك أسد الشرى فأوراس يشهد يوم الورى بأن جهزنا على المعتدين سلاما سلاما جبال البلد فأنت القلاع لنا والعمد وفيك عقدنا لواء الجهد ومنك زحفنا على الغاصبين سلوا جبل الجرف عن جيشنا يخبركم عن قوى جأشنا ويعلمكم عن مدى بطشنا بجيش الزعانفة الآثمين سلاما سلاما جبال البلد فأنت القلاع لنا والعمد وفيك عقدنا لواء الجهد ومنك زحفنا على الغاصبين بجرجرة الضخم خضنا الغمر وفي الأبيض الفخم نلنا الفقر وفي كل فج حمينا الضمر فنحن الأباة بنو الفاتحين سلاما سلاما جبال البلد فأنت القلاع لنا والعمد وفيك عقدنا لواء الجهد ومنك زحفنا على الغاصبين نعاهدكم يا ضحايا الكفاح نعاهدكم يا ضحايا الكفاح نعاهدكم يا ضحايا الكفاح بأن على العهد حتى الفلاح ثقوا يا رفاقي بأن النجاح سنقطف أطماره باسمين سلاما سلاما جبال البلد فأنت القلاع لنا والعمد وفيك عقدنا لواء الجهد ومنك زحفنا على الغاصبين قفوا واهدفوا يا رجال الهمم تعيش الجبال ويحيا الوطن وتحيا الضحايا ويحيا العلم وتحيا الدماء دماء الطائرين جزائرنا يا بلاد الجدود نهضنا نحطم عنك القيود ففيك برغم العنا سنسود ونعصف بالظلم والظالمين.
Il était 16 heures lorsque le lieutenant de parachutiste Charbonnier, accompagné d'un de ses hommes et d'un gendarme, arriva chez Audin pour me prendre en charge. La veille de ce mercredi 12 juin, mon ami Maurice Audin, assistant à la faculté des sciences d'Alger, avait été arrêté à son domicile et la police y avait laissé un inspecteur. C'est lui qui m'ouvrit la porte lorsque je tombai dans la souricière. J'avais tenté sans succès de m'échapper, mais le policier, revolver au poing, m'avait rattrapé au premier étage, et nous étions remontés dans l'appartement. Très nerveux, l'inspecteur, tout en me surveillant du coin de l'œil, avait téléphoné au centre des paras pour demander un renfort immédiat. Dès le moment où le lieutenant entra dans la pièce, je sus ce qui m'attendait. Coupé par un immense béret, son petit visage bien rasé, triangulaire et anguleux, comme celui d'un fennec, souriait les lèvres pincées. « Excellente prise, dit-il en détachant les syllabes. C'est Henri Alleg, l'ancien directeur d'Alger Républicain. » Et puis, immédiatement s'adressant à moi, « Qui vous héberge ?»« Ça, je ne vous le dirai pas. » Sourire et hochement de tête, puis très sûr de lui, « Nous allons vous préparer un petit interrogatoire tout à l'heure qui vous suffira. Vous répondrez, je vous le promets. Mettez-lui les menottes. » Tenu par le para, je descendis les 3 étages jusqu'à la rue. La voiture du lieutenant, une aronde, nous attendait rangée de l'autre côté. On me fit asseoir à l'arrière, le para était à côté de moi, le canon de sa mitraillette me heurtait les côtes. Il y en a un bon tas là-dedans pour vous, si vous faites le con. Nous filions vers les hauteurs de la ville. Après une courte halte devant une villa, sans doute un PC des paras, où entra seul Charbonnier, nous continuâmes à monter vers Châteauneuf par le boulevard Clémenceau. Finalement, la voiture s'arrêta, après la place d'Elbiard, devant un grand immeuble en construction. Je traversai une cour encombrée de jeeps et de camions militaires, et j'arrivai devant l'entrée du bâtiment inachevé. Je montai. Charbonnier était devant, le para derrière moi. Les fers du ciment armé apparaissaient çà et là dans la maçonnerie. L'escalier n'avait pas de rampe, des plafonds gris pendaient les fils d'une installation électrique hâtive. D'un étage à l'autre, c'était un remue-ménage incessant de paras qui montaient et descendaient, chassant devant eux des musulmans, prisonniers, déguenillés, barbus de plusieurs jours, le tout dans un grand bruit de bottes, d'éclats de rire, de grossièreté et d'insultes entremêlées. J'étais au centre de tri du sous-secteur de la Bouzaréa. J'allais apprendre bientôt comment s'effectuait ce tri. Derrière Charbonnier, j'entrai dans une grande pièce du troisième ou du quatrième étage, la salle de séjour du futur appartement. Quelques tables démontables, au mur, des photos racornies de suspects recherchés, un téléphone de campagne, c'était tout l'ameublement. Près de la fenêtre, un lieutenant, je sus par la suite qu'il se nommait Hérulin. Un grand corps d'ours, bien trop grand pour cette petite tête aux yeux bridés de poupon mal réveillé, et pour la petite voix pointue qui en sortait, une voix un peu mielleuse et zozotante d'enfant de cœur vicieux. « Nous allons vous donner une chance, » dit Charbonnier tourné vers moi. « Voici du papier et un crayon. Vous allez nous dire où vous habitez, qui vous a hébergé depuis votre passage à la clandestinité, quelles sont les personnes que vous avez rencontrées, quelles ont été vos activités. » Le ton restait poli. On m'avait enlevé les menottes. Je répétai pour les deux lieutenants ce que j'avais dit à Charbonnier durant le trajet en voiture. Je suis passé dans la clandestinité pour ne pas être arrêté, car je savais que je faisais l'objet d'une mesure d'internement. Je m'occupais, et je m'occupe encore, des intérêts de mon journal. À ce sujet, j'ai rencontré à Paris messieurs Guy Mollet et Gérard Jacquet. Je n'ai pas à vous en dire davantage. Je n'écrirai rien et ne comptez pas sur moi pour dénoncer ceux qui ont eu le courage de m'héberger. » Toujours souriant et sûr d'eux-mêmes, les deux lieutenants se consultèrent du regard. « Je crois qu'il est inutile de perdre notre temps, » dit Charbonnier. Et Hérulin approuva. Dans le fond, c'était aussi mon avis. Si je devais être torturé, que ce soit plus tôt ou plus tard, quelle importance. Et plutôt que d'attendre, il valait mieux affronter le plus dur tout de suite. Charbonnier était au téléphone. « Préparez une équipe, c'est pour une grosse légume. » Et dites à Lorca de monter. Quelques instants plus tard, Lorca entrait dans la pièce. 25 ans, petit, basané, le nez busqué, les cheveux gominés, le front étroit. Il s'approcha de moi et dit en souriant. « Ah, c'est lui le client. Venez avec moi. » Je passai devant lui, un étage plus bas, j'entrai dans une petite pièce, à gauche du couloir. La cuisine du futur appartement. Un évier, un potager de faïence, surmonté d'une hotte dont les vitres n'étaient pas encore placées, seule était posée la structure métallique. Au fond, une porte-fenêtre camouflée de carton rapiécé qui obscurcissait la pièce. « Déshabillez-vous, » dit Lorca, « et comme je n'obéissais pas, si vous ne voulez pas, on le fera de force. » Tandis que je me déshabillais, des paras allaient et venaient autour de moi dans le couloir, curieux de connaître le client de Lorca. L'un d'eux, blondinet à l'accent parisien, passa la tête à travers le cadre sans vitre de la porte. « Tiens, c'est un Français. Il a choisi les ratons contre nous. Tu vas le soigner, hein, Lorca ?» Lorca installait maintenant sur le sol une planche noire, suintante d'humidité, souillée et gluante des vomissures laissées sans doute par d'autres clients. Allez, couchez-vous. » Je m'étendis sur la planche. Lorca, aidé d'un autre, m'attacha par les poignets et les chevilles avec des lanières de cuir fixées au bois. Je voyais Lorca debout au-dessus de moi, les jambes écartées, un pied de chaque côté de la planche à la hauteur de ma poitrine, les mains aux hanches dans l'attitude du conquérant. Il me fixait droit dans les yeux, essayant comme ses chefs de m'intimider. Écoutez, dit-il avec un accent d'Oranie, le lieutenant vous laisse réfléchir un peu, mais après vous allez parler. Quand on pique un Européen, on soigne mieux que les troncs. Tout le monde parle. Faudra tout nous dire, et pas seulement un petit morceau de la vérité, hein, mais tout. Pendant ce temps, autour de moi, des bérets bleus faisaient assaut d'esprit. Pourquoi que tes copains ne viennent pas te détacher? Tiens, qu'est-ce qu'il fait étendu là-dessus, celui-là? De la relaxation? Un autre plus hargneux. Faudrait pas perdre son temps avec des mecs comme ça, moi je les descendrai tout de suite. Du bas de la fenêtre soufflait un courant d'air glacé. Nu sur la planche humide, je commençais à trembler de froid. Alors Lorca, souriant, « Vous avez peur? Vous voulez parler? » « Non, je n'ai pas peur, j'ai froid. »« Vous faites le fanfaron, hein? Ça va vous passer. Dans un quart d'heure, vous allez parler gentiment. » Je restais là au milieu des paras qui plaisantaient et m'insultaient, sans répondre, mais forçant de rester le plus calme possible. Enfin, je vis entrer dans la pièce Charbonnier, Hérulin et un capitaine. Grand, maigre, les lèvres pincées, la joue balafrée, élégant et muet, le capitaine Devy. Alors, vous avez réfléchi? C'était Charbonnier qui me posait la question. Je n'ai pas changé d'avis. Bon, il l'aura cherché. Et s'adressant aux autres, il vaut mieux aller dans la pièce à côté, il y a de la lumière, on sera mieux pour travailler. Quatre paras saisissant la planche sur laquelle j'étais attaché me transportèrent ainsi dans la pièce voisine face à la cuisine et me déposèrent sur le ciment. Les officiers s'installaient autour de moi, assis sur des paquetages apportés par leurs hommes. « Ah !» dit Charbonnier, toujours très sûr du résultat escompté. « Il me faut du papier et un carton ou quelque chose de dur en dessous pour pouvoir écrire. » On lui tendit une planchette qu'il posa à côté de lui. Puis, prenant des mains de Lorca une magnéto que celui-ci lui tendait, il l'éleva à hauteur de mes yeux et me dit, retournant l'appareil, déjà 100 fois décrit par les suppliciés, « Tu connais ça, n'est-ce pas? Tu en as souvent entendu parler. T'as même écrit des articles là-dessus. » Vous avez tort d'employer de telles méthodes, vous verrez. Si vous avez de quoi m'inculper, transférez-moi à la justice. Vous avez 24 heures pour cela. Et vous n'avez pas à me tutoyer. » Éclat de rire autour de moi. Je savais bien que ces protestations ne servaient à rien et que dans ces circonstances, en appeler au respect de la légalité devant ces brutes était ridicule. Mais je voulais leur montrer qu'ils ne m'avaient pas impressionné. « Allez, » dit Charbonnier. Un para s'assit sur ma poitrine, très brun, la lèvre supérieure retroussée en triangle sous le nez, un grand sourire de gosse qui va faire une bonne farce. Je devais le reconnaître plus tard dans le bureau du juge au cours d'une confrontation. C'était le sergent Jacquet. Un autre para, oranais sans doute d'après son accent, était à ma gauche, un autre au pied, les officiers tout autour et dans la pièce, d'autres encore, sans tâche précise, mais désireux sans doute d'assister au spectacle. Jacquet, toujours souriant, agita d'abord devant mes yeux les pinces qui terminaient les électrodes. Des petites pinces d'acier brillant, allongées et dentelées. Des pinces crocodiles, disent les ouvriers des lignes téléphoniques qui les utilisent. Il m'en fixa une au lobe de l'oreille droite, l'autre au doigt du même côté. D'un seul coup, je bondis dans mes liens et hurlai de toute ma voix. Charbonnier venait de m'envoyer dans le corps la première décharge électrique. Près de mon oreille avait jailli une longue étincelle, et je sentis dans ma poitrine mon cœur s'emballer. Je me tordais en hurlant et me raidissais à me blesser, tandis que les secousses commandées par Charbonnier, magnéto en main, se succédaient sans arrêt. Sur le même rythme, Charbonnier scandait une seule question en martelant les syllabes « Où es-tu hébergé ?» Entre deux secousses, je me tournai vers lui pour lui dire « Vous avez tort, vous vous en repentirez. » Furieux, Charbonnier tourna à fond le réostat de sa magnéto. « Chaque fois que tu me feras la morale, je t'enverrai une giclée. » Et tandis que je continuais à crier, il dit à Jacquet « Bon Dieu, qu'il est gueulard, foutez-lui un baillon. » Roulant ma chemise en boule, Jacquet me l'enfonça dans la bouche et le supplice recommença. Je serrai de toutes mes forces le tissu entre mes dents et j'y trouvai presque un soulagement. Brusquement, je sentis comme la morsure sauvage d'une bête qui m'aurait arraché la chair par saccade. Toujours souriant au-dessus de moi, Jacquet m'avait branché la pince au sexe. Les secousses qui m'ébranlaient étaient si fortes que les lanières qui me tenaient une cheville se détachèrent. On arrêta pour les rattacher et on continua. Bientôt, le lieutenant prit le relais de Jacquet. Il avait dégarni un fil de sa pince et le déplaçait sur toute la largeur de ma poitrine. J'étais tout entier ébranlé de secousses nerveuses de plus en plus violentes et la séance se prolongeait. On m'avait aspergé d'eau pour renforcer encore l'intensité du courant et entre deux giclées, je tremblais aussi de froid. Autour de moi, assis sur les paquetages, Charbonnier et ses amis vidaient des bouteilles de bière. Je mordais mon baillon pour échapper à la crampe qui me tordait tout le corps, en vain. Enfin, ils s'arrêtèrent. « Allez, détachez-le, la première séance était terminée. » Je me relevai en titubant, remis mon pantalon et ma veste. Hérulin était devant moi. Ma cravate était sur la table. Il la prit, me la noua comme une corde autour du cou, et au milieu des rires me traîna comme il aurait traîné un chien derrière lui jusqu'au bureau contigu. « Alors, me dit-il, ça ne te suffit pas. On ne te lâchera pas. À genoux. » De ses énormes battoirs, il me giflait à toute volée. Je tombai à genoux. Mais j'étais incapable de me maintenir droit. J'oscillais, tantôt à gauche, tantôt à droite. Les coups des rulins rétablissaient l'équilibre quand ils ne me jetaient pas contre le sol. « Alors tu veux parler? Tu es foutu. » « Tu entends, tu es un mort en sursis. »« Amenez Audin, dit Charbonnier, il est dans l'autre bâtiment. » Et Rulin continuait à me frapper, tandis que l'autre, assis sur une table, assistait au spectacle. Mes lunettes avaient depuis longtemps voltigé, ma myopie renforçait encore l'impression d'irréel, de cauchemar, que je ressentais et contre laquelle je me forçais de lutter dans la crainte de voir se briser ma volonté. « Allez, Audin, dites-lui ce qu'il attend. Évitez-lui les horreurs d'hier soir. » C'était Charbonnier qui parlait. Et Rulin me releva la tête. Au-dessus de moi, je vis le visage blême et hagard de mon ami Audin qui me contemplait, tandis que j'oscillais sur les genoux. « Allez, parlez-lui, dit Charbonnier. C'est dur, Henri, dit Audin. » Et on le ramena. Brusquement, et Rulin me releva. Il était hors de lui. Cela durait trop. « Écoute, salaud, tu es foutu, tu vas parler, tu entends, tu vas parler. » Il tenait son visage tout près du mien, il me touchait presque et hurlait. « Tu vas parler, tout le monde doit parler ici, on a fait la guerre en Indochine et ça nous a servi pour vous connaître. Ici, c'est la Gestapo. Tu connais la Gestapo ?» Puis ironique, « Tu as fait des articles sur les tortures, hein, salaud. Eh bien maintenant, c'est la 10e d'épée qui les fait sur toi. » J'entendis derrière moi rire l'équipe des tortionnaires. Et Rulin martelait le visage de gifre et le ventre de coups de genou. Ce qu'on fait ici, on le fera en France. Ton Duclos et ton Mitterrand, on leur fera ce qu'on te fait. Et ta putain de République, on la foutra en l'air aussi. Tu vas parler, je te dis. Sur la table, il y avait un morceau de carton dur. Il le prit et s'en servit pour me battre. Chaque coup m'abrutissait davantage, mais en même temps me raffermissait dans ma décision ne pas céder à ces brutes qui se flattaient d'être les émules de la Gestapo. Bon, dit Charbonnier, tu l'auras voulu, on va te livrer aux fauves. Les fauves, c'étaient ceux que je connaissais déjà, mais qui allaient déployer plus largement leurs talents. Et Rulin me traîna vers la première pièce, celle où se trouvaient la planche et le magnéto. J'eus le temps d'apercevoir un musulman nu qu'on relevait à coups de pied et qu'on chassait dans le couloir. Pendant qu'Hérulin, Charbonnier et les autres s'occupaient de moi, le reste de l'équipe avait poursuivi son travail avec la planche et la magnéto disponibles. Ils avaient interrogé un suspect pour ne pas perdre de temps. Lorca m'attacha sur la planche, une nouvelle séance de torture électrique débutait. « Ce coup-ci, c'est la grosse gégène, dit-il. Dans les mains de mon tortionnaire, je vis un appareil plus gros, et dans la souffrance même, je sentis une différence de qualité. Au lieu des morsures aiguës et rapides, qui semblait me déchirer le corps, c'était maintenant une douleur plus large, qui s'enfonçait profondément dans tous mes muscles, elle les tordait plus longuement. J'étais crispé dans mes liens, je serrais les mâchoires sur mon baillon et gardais les yeux fermés. Ils s'arrêtèrent, mais je continuais à trembler, nerveusement. « Tu sais nager ?» dit Lorca, penché sur moi. « On va t'apprendre. Allez, au robinet. » Soulevant ensemble la planche sur laquelle j'étais toujours attaché, ils me transportèrent ainsi dans la cuisine. Là, ils posèrent sur l'évier l'extrémité du bois où se trouvait ma tête. Deux ou trois paras tenaient l'autre bout. La cuisine n'était éclairée que par la vague lumière du couloir. Dans la pénombre, je distinguais Hérulin, Charbonnier et le capitaine Devy, qui semblait avoir pris la direction des opérations. Au robinet nickelé qui luisait au-dessus de mon visage, Lorca fixait un tuyau de caoutchouc. Il m'enveloppa ensuite la tête d'un chiffon, tandis que David lui disait « Mettez-lui un taquet dans la bouche ». Au travers du tissu, Lorca me pinçait le nez. Il cherchait à m'enfoncer un morceau de bois entre les lèvres pour que je ne puisse fermer la bouche ou rejeter le tuyau. Quand tout fut prêt, il me dit « Quand tu voudras parler, tu n'auras qu'à remuer les doigts ». Et il ouvrit le robinet. Le chiffon s'imbibait rapidement, l'eau coulait partout, dans ma bouche, dans mon nez, sur tout mon visage. Pendant un temps, je pus encore aspirer quelques petites gorgées d'air. J'essayais, en contractant le gosier, d'absorber le moins possible d'eau et de résister à l'asphyxie en retenant le plus longtemps que je pouvais l'air dans mes poumons. Mais je ne pus tenir plus de quelques instants. J'avais l'impression de me noyer et une angoisse terrible, celle de la mort elle-même, m'étreignit. Malgré moi, tous les muscles de mon corps se bandaient inutilement pour m'arracher à l'étouffement. Malgré moi, les doigts de mes deux mains s'agitèrent follement. « Ça y est, il va parler, » dit une voix. L'eau s'arrêta de couler, on m'enleva le chiffon. Je respirai. Dans l'ombre, je voyais les lieutenants et le capitaine, cigarette aux lèvres, frapper à tour de bras sur mon ventre pour me faire rejeter l'eau absorbée. Crisé par l'air que je respirais, je sentais à peine les coups. Alors, je restais silencieux. Il s'est foutu de nous, remettez-lui la tête dessous. Cette fois, je fermais les poings à m'enfoncer les ongles dans la paume. J'étais décidé à ne plus remuer les doigts. Autant mourir asphyxié du premier coup. J'appréhendais de retrouver ce moment terrible où je m'étais senti sombrer dans l'inconscience, tandis qu'en même temps je me débattais de toutes mes forces pour ne pas mourir. Je ne remuais plus les doigts, mais à trois reprises, je connus encore cette angoisse insupportable. In extremis, il me laissait reprendre mon souffle pendant qu'il me faisait rejeter l'eau. Au dernier passage, je perdis connaissance. En ouvrant les yeux, je mis quelques secondes à reprendre le contact avec la réalité. J'étais étendu, détaché et nu au milieu des paras. Je vis Charbonnier penser sur moi. « Ça va, » dit-il aux autres, « il revient. » Et s'adressant à moi, « Tu sais, tu as bien failli y rester. Ne crois pas que tu vas toujours pouvoir t'évanouir. Lève-toi. » Ils me mirent debout. Je titubais, m'accrochais à l'uniforme, même de mes bourreaux prêts à m'écrouler à tout moment. Avec des gifles et des coups de pied, ils me jetaient comme une balle de l'un à l'autre. J'esquissais un mouvement de défense. « Il a encore du réflexe, la vache, » dit quelqu'un. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on va lui faire ?» dit un autre. Entre les rires, j'entendis « On va le roussir. » « Tiens, je n'ai jamais vu ça. » C'était Charbonnier, du ton de quelqu'un qui va faire une nouvelle expérience. On me poussa dans la cuisine, et là, on me fit allonger sur le potager et l'évier. Lorca m'entoura les chevilles d'un chiffon mouillé, puis les attacha fortement avec une corde. Tous ensemble, ensuite, ils me soulevèrent pour m'accrocher la tête en bas à la barre de fer de la hotte au-dessus de l'évier. Seuls mes doigts touchaient le sol. Ils s'amusèrent pendant un moment à me balancer de l'un à l'autre comme un sac de sable. Je vis Lorca qui allumait lentement une torche de papier à hauteur de mes yeux. Il se releva et tout à coup je sentis la flamme sur le sexe et sur les jambes, dont les poils s'enflammèrent en grésillant. Je me redressai d'un coup de rein si violent que je heurtai Lorca. Il recommença une fois, deux fois, puis se mit à me brûler la pointe d'un sein. Mais je ne réagissais plus suffisamment, et les officiers s'éloignèrent. Seul restait à mes côtés Lorca et un autre. De temps en temps, ils se remettaient à me frapper ou m'écrasaient de leurs bottes l'extrémité des doigts, comme pour me rappeler leur présence. Les yeux ouverts, je m'efforçais de les surveiller pour ne pas être surpris par leurs coups, et dans les moments de répit, j'essayais de penser à autre chose qu'à mes chevilles cisaillées par la corde. Enfin, du couloir, deux bottes marchèrent vers mon visage. Je vis la figure renversée de Charbonnier, accroupi qui me fixait. « Alors, tu parles? Tu n'as pas changé d'avis ?» Je le regardai et ne répondis pas. « Détachez-le. » Lorca libéra la corde qui me liait à la barre, tandis que l'autre me tirait par le bras. Je tombai à plat sur le ciment. « Lève-toi. » Je n'y arrivais pas tout seul. Soutenu de chaque côté, je sentais la plante de mes pieds enflée, au point de me donner l'impression que chacun de mes pas s'enfonçait dans un nuage. Je remis ma veste et mon pantalon, et je dégringolai jusqu'au bas d'un escalier. Là, un autre para me releva, et me plaqua le dos contre le mur en me retenant les deux mains. Je tremblais de froid, d'épuisement nerveux, je claquais des dents. Le compagnon de Lorca, celui qui s'était occupé de moi à la cuisine, était arrivé sur le palier. « Marche !» dit-il. Il me poussa devant lui et d'un coup de pied me jeta par terre. « Tu ne vois pas qu'il est groggy ?» dit l'hôte, avec un accent de France. « Fous-lui la paix !» C'étaient les premières paroles humaines que j'entendais. « Des mecs comme ça, il faudrait les bousiller tout de suite, » répondit mon tortionnaire. Je tremblais sur mes jambes et pour ne pas tomber, je m'appuyais des paumes et du front contre le mur du couloir. Il me fit mettre les mains derrière le dos et m'attacha les poignets avec une fine cordelette, puis me jeta dans une cellule. À genoux, j'avançai vers une paillasse tout contre le mur. J'essayais de m'y étendre sur le ventre, mais elle était couturée de toutes parts de fils de fer barbelés. Derrière la porte, j'entendis rire. Je l'ai mis avec la paillasse à fil de fer barbelé. C'était toujours le même. Une voix lui répondit. Il a quand même gagné une nuit pour donner à ses copains le temps de se tirer.
C'est comme une vision divine, radieuse, une surimpression qui s'ajoute au tableau. Ta silhouette est là, embrumée d'un halo, comme on voyait jadis sur les images pieuses. Paraît que Jamila, ça signifie la belle. Limpide traduction, pléonasme élégant. Le thème ou la version, ça te va comme un gant. La belle Jamila, Jamila, la rebelle. Au sous-sol d'El Billar, ils traînaient leur capture. On surnommait aussi l'endroit centre de tri. Quelques soldats chantaient pour étouffer les cris de ceux qu'on remontait, meurtris par la torture. Ceux qui t'ont abîmé de manière indicible, tu les reconnaîtrais sur la moindre photo. Mais le juge impartial te demande plutôt de délivrer leur nom. La cour est impassible, Jamila. On fait taire les voix, on censure les lignes. De Sagan, Signoret, Halimi, de Beauvoir et Germaine Tillon, dont le crime est d'avoir dénoncé haut et fort. C'est pratique, indigne. On t'éloigne d'Alger, se voile la face. Au-delà de la mer, loin du cœur, loin des yeux, de barbe rousse à peau et de frêne à lisieux, croit-on qu'en voyageant, le souvenir s'efface. On te libère enfin au seuil de la victoire. Mais dès le lendemain du grand référendum, les hommes te prieront de quitter le forum, comme s'ils étaient seuls à écrire l'histoire, Jamila. Madame à la maison, monsieur gagne la guerre. Tout sera comme avant selon l'ordre établi. Elle aura des petits dans l'ombre et dans l'oubli. Qu'importe les combats, quelle entreprise naguère. Que sont-ils devenus, bourreaux et tortionnaires? Joyeux de riz, artisan, notable, intelligent, médecin réputé, arbitre intransigeant ou grand-père idéal. Amnésique, ordinaire. Je pense à leurs enfants, le mal que je leur souhaite, c'est d'avoir dans l'esprit, loin de ces philistins, plein d'espoir et d'envie de changer le destin, la soif de devenir utopiste, poète, Jamila. Que leur chant jusqu'à toi déchire le silence pour apaiser un peu l'inusable douleur. Que mon chant jusqu'à toi déchire le silence pour apaiser un peu l'inusable douleur. C'est comme une vision divine, radieuse, une surimpression qui s'ajoute au tableau. Ta silhouette est là, embrumé d'un halo, comme on voyait jadis sur les images pieuses.
Les cordelettes m'entraient dans la chair, mes mains me faisaient mal, et la position dans laquelle mes bras étaient maintenus me brisait les épaules. Je frottais le bout de mes doigts contre le ciment brut pour les faire saigner et dégager un peu la pression dans mes mains gonflées, mais je n'y réussis pas. D'une lucarne dans le haut du mur, je voyais la nuit s'éclaircir. J'entendis un coq chanter et je calculai que paras et officiers, fatigués par leur nuit, ne pourraient revenir avant 9 heures au moins, qu'il me fallait donc utiliser au mieux tout ce temps pour reprendre des forces avant le prochain interrogatoire. Tantôt sur une épaule, tantôt sur l'autre, j'essayais de me décontracter. Mais mon corps refusait de se calmer. Je tremblais constamment et ne pus trouver un moment de repos. Je frappai avec le pied à plusieurs reprises contre la porte. Enfin en vain. « Qu'est-ce que tu veux ? Je voulais aller uriner. Pisse sur toi !» me répondit-on de derrière la cloison. Il faisait déjà jour quand un para, celui-là même qui avait trouvé excessive la brutalité de son collègue, apparut et me dit « Allez, on déménage !» Il m'aida à me lever et me soutint, tandis que nous montions les escaliers. Ils aboutissaient à une immense terrasse, le soleil y brillait déjà très fort. Et au-delà du bâtiment, on découvrait tout un quartier d'Elbiar. Par les descriptions que j'en avais lues, je me rendis compte d'un coup que j'étais dans l'immeuble des paras, où Ali Boumengel, avocat à la cour d'appel d'Alger, était mort. C'était de cette terrasse que les tortionnaires avaient prétendu qu'il s'était jeté pour se suicider. Nous descendîmes par un autre escalier dans l'autre partie de la maison, puis mon geôlier m'enferma dans une petite pièce obscure. C'était un cachot, presque un placard, où la lumière du jour n'entrait jamais. Seule une étroite lucarne, située en haut du mur et donnant sur une cheminée d'aération, laissait pénétrer quelques lueurs. J'avançais en rampant, comme je pouvais, vers un coin pour y appuyer mon dos et soulager mes épaules tordues par des crampes. Bientôt, la circulation devint plus intense dans les couloirs. La maison s'animait et je m'apprêtais à voir revenir mes bourreaux. Mais Hérulin apparut tout seul. Il m'empoigna par les épaules pour m'aider à me mettre debout et me conduisit jusqu'au palier. « Le voilà, mon commandant, » dit-il. Devant moi se tenait un commandant de para en uniforme de camouflage et béret bleu. Il était long et cassé, extrêmement maigre. D'un air doux et ironique, il me dit « Vous êtes journaliste. Alors, vous devez comprendre que nous voulons être informés. Il faudra nous informer. » Il avait seulement voulu faire ma connaissance. On me ramena dans mon placard. Je n'y restai pas longtemps seul, car quelques instants plus tard, Hérulin reparaissait. Il était cette fois accompagné de charbonniers et d'un porteur de magnéto. Du seuil de la porte, il me regardait. « Tu ne veux toujours pas parler ? Tu sais, nous, on ira jusqu'au bout. » J'étais adossé au mur, face à la porte. Ils étaient entrés, avaient allumé et s'étaient installés en demi-cercle autour de moi. « Il me faut un baillon, » dit charbonnier. Il plongea la main dans un des paquetages qui se trouvait là et en sortit une serviette crasseuse. « Laisse tomber, » dit Hérulin, « il peut gueuler, on est au troisième sous-sol. »« Quand même, des charbonniers, c'est désagréable. » Ils dégrafèrent mon pantalon, baissèrent mon slip et m'accrochèrent les électrodes de chaque côté de l'aine. Ils se relayaient pour tourner la manivelle de la magnéto, une grosse gégène. Je ne criais qu'au début de la secousse et à chaque reprise du courant. Et mes mouvements étaient beaucoup moins violents que lors des premières séances. Ils devaient s'y attendre, puisqu'ils n'avaient pas jugé nécessaire de m'attacher sur la planche. Tandis que le supplice se poursuivait, j'entendais un haut-parleur hurler des chansons à la mode. Sans doute la musique venait-elle d'un mess ou d'un foyer installé tout près. Elle couvrait largement Mécry, et c'était ces dispositions qu'Hérulin baptisait « troisième sous-sol ». La séance de torture se prolongeait et je m'épuisais. Je tombais tantôt à droite, tantôt à gauche. L'un des deux lieutenants détachait alors une pince et me piquait au visage jusqu'à ce que je me redresse. Ma parole, dit Charbonnier, il aime ça. Ils durent se consulter et décidèrent qu'il me fallait récupérer. « Laisse-lui les fils branchés, dit Hérulin, puisqu'on vient. » Ils m'abandonnèrent avec les pinces dans la chair et sortirent. Je dus m'endormir d'un coup, car lorsque je les revis, j'eus l'impression qu'un instant seulement s'était écoulé. Et à partir de là, je n'eus plus aucune notion du temps. Hérulin entra le premier dans la pièce et me lança un coup de pied en me disant « Assis ». Je ne bougeais pas. Il m'empoigna et m'adossa dans un angle. Un moment après, je me tordais à nouveau sous l'effet du courant. Je sentais que cette résistance les rendait de plus en plus brutaux et nerveux. « On va le lui foutre dans la bouche, » dit Hérulin. « Ouvre la bouche, » commanda-t-il. Pour me forcer à obéir, il me serra les narines, et au moment où j'ouvrais la bouche pour respirer, il m'enfonça le fil dénudé très loin, jusqu'au fond du palais, tandis que Charbonnier mettait en branle la magnéto. Je sentais l'intensité du courant grandir, et à mesure, ma gorge, mes mâchoires, tous les muscles de mon visage, jusqu'à mes paupières se contracter dans une crispation de plus en plus douloureuse. C'était Charbonnier qui tenait maintenant le fil. « Tu peux lâcher, lui dit Hérulin, ça tient tout seul. » En effet, mes mâchoires étaient soudées sur l'électrode par le courant. Il m'était impossible de desserrer les dents, quelque effort que je fasse. Mes yeux, sous les paupières crispées, étaient traversés d'images de feu, de dessins géométriques lumineux, et je croyais les sentir s'arracher par saccades de leurs orbites, comme poussée de l'intérieur. Le courant avait atteint sa limite et parallèlement ma souffrance aussi. Elle était comme étale et je pensais qu'il ne pourrait pas me faire plus mal. Mais j'entendis Hérulin dire à celui qui actionnait le magnéto « Par petits coups, tu ralentis puis tu repars ». Je sentis l'intensité diminuer, les crampes qui raidissaient tout mon corps décroître et d'un seul coup, comme l'autre faisait donner à plein le magnéto, le courant m'écartelait de nouveau. Pour échapper à ces chutes brusques et à ces remontées aiguës vers le sommet du supplice, de toutes mes forces, je me mis à me frapper la tête contre le sol, et chaque coup m'apportait un soulagement. Hérulin, tout près de mon oreille, me criait « Ne cherche pas à t'assommer, tu n'y arriveras pas. » Enfin, ils s'arrêtèrent. Devant mes yeux s'agitaient encore des traits et des points de lumière, et dans mes oreilles résonnait le bruit d'une roulette de dentiste. Au bout d'un instant, je les distinguai tous trois, debout devant moi, « Alors, dit Charbonnier, je ne répondis pas. « Bon Dieu, dit Hérulin, et à toute volée il me gifla. « Écoute, dit Charbonnier, plus calme, à quoi ça te sert tout ça? Toi, tu ne veux rien dire, alors on va prendre ta femme. Tu crois qu'elle tiendra le coup ?» Hérulin, à son tour, se pencha sur moi. « Tu crois que tes gosses sont à l'abri parce qu'ils sont en France? On les fera venir quand on voudra. » Dans ce cauchemar, je ne séparais plus qu'avec difficulté les menaces qu'il fallait prendre au sérieux du chantage gratuit. Mais je savais qu'ils étaient capables de torturer Gilberte comme ils l'avaient fait avec Gabrielle Gymnèse, Blanche Moine, Eliette Loup et d'autres jeunes femmes. J'ai appris plus tard qu'ils avaient même torturé Madame Toury, la femme d'un acteur bien connu de Radio Alger, devant son mari pour qu'il parle. Je craignais qu'ils ne devinent l'angoisse qui m'envahissait à la pensée qu'ils pourraient effectivement mettre leurs menaces à exécution, et j'entendis presque avec soulagement l'un d'eux dire « Il s'en fout, il se fout de tout ». Ils m'abandonnèrent, mais l'idée que Gilberte pouvait à tout moment être attachée sur la planche des supplices ne pouvait plus me quitter. Charbonnier revint un peu plus tard avec un autre para. Ils me branchèrent à nouveau, puis ressortirent. J'avais maintenant l'impression qu'ils allaient et venaient continuellement, ne me laissant que quelques moments de répit pour récupérer. Je revois Charbonnier promenant son fil sur ma poitrine en scandant continuellement la même question. « Où as-tu passé la nuit avant ton arrestation ?» Ils me mirent sous les yeux la photo d'un dirigeant du parti recherché. « Où est-il ? » Je regardais Charbonnier, cette fois accompagné d'Hérulin. Il était en civil, très élégant. Comme je me ratelais la gorge, il s'écarta de moi. « Attention !» dit-il, « il va cracher. » « Qu'est-ce que ça peut foutre ?» dit l'autre. « Je n'aime pas ça, ce n'est pas hygiénique. » Il était pressé, il avait peur de se salir. Il se mit debout et se prépara à sortir. Je pensais qu'il devait aller à quelques soirées et que, par conséquent, une autre journée au moins s'était écoulée depuis mon arrestation. Et je fus soudain heureux à l'idée que les brutes ne m'avaient pas vaincu. Et Rulin partit aussi, mais je ne restai pas longtemps seul. Dans la cellule obscure, on poussa un musulman. La porte ouverte un moment laissa passer un rayon de lumière. J'entrevis sa silhouette. Il était jeune, correctement habillé, il avait les menottes au poignet. Il s'avança à tâtons et s'installa à côté de moi. De temps à autre, j'étais secoué de tremblements et je sursautais en gémissant, comme si la torture de l'électricité me poursuivait encore. Il me sentit frissonner et tira ma veste pour couvrir mes épaules glacées. Il me soutint pour que je puisse me mettre à genoux et uriner contre le mur, puis m'aida à m'étendre. « Repose-toi, mon frère, repose-toi, » me dit-il. Je résolus de lui dire. « Je suis Alleg, l'ancien directeur d'Alger Républicain. Dis dehors, si tu peux, que je suis mort ici. » Mais il me fallait faire un effort, et je n'en eus pas le temps. La porte s'ouvrit brusquement, et j'entendus quelqu'un dire du couloir « Pourquoi est-ce qu'on l'a foutu ici, celui-là » Et ils l'emmenèrent. Un peu plus tard, on entra encore. Deux paras. Une torche électrique fut braquée sur mon visage. Je m'attendais à des coups, mais ils ne me touchèrent pas. J'essayais en vain de distinguer à qui j'avais affaire, mais j'entendis seulement une voix jeune dire « C'est horrible, n'est-ce pas ?» Et l'autre répondre « Oui, c'est terrible. » Et ils partirent. Enfin, on alluma brusquement l'électricité. C'étaient deux hommes de l'équipe Hérulin. « Il n'a toujours rien dit ?»« T'en fais pas, dans 5 minutes, il va parler. »« Ah, dit le second, tu as dit ton truc au lieutenant ?»« Oui. » Je compris que j'allais connaître de nouveaux supplices. Hérulin parut derrière eux. Il se pencha sur moi, me releva et m'adossa contre le mur. Il ouvrit ma veste et s'installa en face de moi, ses jambes maintenant les miennes écartées sur le sol. Il sortit une boîte d'allumettes de la poche de son uniforme, en frotta une très lentement, la passa devant mes yeux pour voir si je suivais la flamme et si j'avais peur. Puis, toujours avec des allumettes, il se mit à me brûler le bout d'un sein puis l'autre. « Vas-y, toi !» Il s'adressait à un de ses adjoints. Celui-ci enflammait les torches de papier toutes préparées et me chauffait la plante des pieds. Je ne bougeais pas et n'articulais plus un cri. J'étais devenu tout à fait insensible, et tandis qu'Hérulin me brûlait, je pouvais le regarder sans ciller. Furieux, il me frappait au bas-ventre et hurlait « Tu es foutu, foutu, tu entends ? Tu parles, oui ou merde ? Tu voudrais bien que je te bute tout de suite, hein ? Mais ce n'est pas fini. Tu sais ce que c'est que la soif ? Tu vas crever de soif. » Le courant avait desséché ma langue, mes lèvres, ma gorge, rêche et dure comme le bois. Hérulin devait savoir que le supplice électrique crée une soif insupportable. Il avait abandonné ses allumettes et dans la main, il tenait un quart et un récipient de zinc. « Ça fait 2 jours que tu n'as pas bu. Encore 4 avant de crever. C'est long, 4 jours. Tu lécheras ta pisse. » À la hauteur de mes yeux, auprès de mon oreille, il faisait couler dans le quart un filet d'eau et répétait « Tu parles et tu bois. Tu parles et tu bois. » Avec le bord du quart, il m'entr'ouvrait les lèvres. Il n'y avait laissé qu'un doigt de liquide, et je voyais l'eau fraîche s'agiter au fond, mais je ne pouvais en absorber une goutte. Tout près de mon visage, Hérulin riait de mes efforts inutiles et épuisants. « Dites au gars de venir voir le supplice de Tantale, » dit-il en plaisantant. Dans l'encadrement de la porte surgirent d'autres paras, et malgré l'abrutissement dans lequel je me débattais, je relevai la tête et refusai de regarder l'eau pour ne pas donner ma souffrance en spectacle assez brut. « Ah ! On n'est pas si vache que ça, on va quand même t'en donner. » Et il porta à mes lèvres le quart plein à ras-bord. J'hésitai un moment. Alors, me pinçant les narines et poussant ma tête en arrière, il me versa le contenu du quart dans la bouche. C'était de l'eau atrocement salée. Il y eut une nouvelle interruption, des minutes ou des heures, et Deville, capitaine, parut à son tour. Avec lui, Lorca et Rulin, et ce grand parachutiste qui avait participé aux séances du mercredi. Ils m'adossèrent contre le mur, et Lorca me brancha les pinces à l'oreille et aux doigts. À chaque secousse, je sursautais, mais sans crier, devenu presque aussi insensible qu'une mécanique. Deville lui fit signe d'arrêter.
Combien sont-ils, je me demande, messieurs? Dans vos régimes, à galons. Combien... Combien sont-ils, je vous demande, messieurs, dans vos exils, dans vos prisons? Leur reste-t-il un peu d'espoir au cœur de résister à la question? Combien faut-il qu'on les tourmente, messieurs, pour qu'ils tombent sous vos talons? Combien faut-il qu'ils se lamentent, messieurs, pour ne plus comprendre leur nom? Leur reste-t-il une mémoire des leurs, un souvenir ou un prénom? Combien faut-il qu'on les torture, messieurs, pour qu'ils soient sourds à vos injures? Combien faut-il qu'ils endurent, messieurs, pour n'être plus qu'une blessure? Leur reste-t-il un verre à boire, une heure à vivre avant l'exécution? Combien faut-il qu'on les tourmente, messieurs, ces ouvriers de l'espérance? Combien faut-il pour leur faire rendre, messieurs, le cœur, la tête et la laitance? Combien faut-il que ça se vende, les cieux, pour que l'Église taise leur nom? Combien sont-ils à ne plus tendre, messieurs, qu'un regard vide à vos questions? Combien sont-ils à vous entendre, messieurs, à l'heure du dernier frisson? Leur reste-t-il un peu de viande aux yeux, un peu de cils et de raison? Combien sont-ils, je me demande, messieurs, dans vos régimes à galons? Combien sont-ils, je vous demande, messieurs, moi je vous pose la question.
Ainsi se termine cette première émission consacrée à un hommage à Henri Salem, alias Henri Alleg, décédé récemment le 17 juillet 2013. Hommage présenté sous la forme de la lecture intégrale en deux émissions de son témoignage, publié dans le livre La Question, paru le 12 février 1958. Vous avez pu entendre au fil de cette émission la chanson « Il y avait tant de muguets » sur un texte de Rosemarie Moulin, mis en musique par Hélène Martin et interprété par Marc Augeret. Puis c'était une chanson anonyme par des combattants algériens, Nostra Algeria. Ensuite, c'est la chanson de Bernard Joyet qu'il interprétait lui-même, Djamila. Et enfin, vous avez entendu « La question », un texte de Maurice Fanon, mis en musique par Darzi, et interprété par Pia Colombo. Dans notre prochaine émission, nous vous proposerons d'entendre la suite du témoignage de Henri Alleg. Bonsoir. Thank you.
Thank you.